Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur l'autre radio et il est l'heure de l'Instant Jeune, l'émission du réseau Information Jeunesse pour les Jeunes. Donc je suis Florine, du point Information Jeunesse de Mayenne Communauté, et comme d'habitude, je suis accompagnée de Laurence, du Centre Information Jeunesse de Laval. Et ce mois-ci, à l'occasion du mois sans tabac, nous allons parler des addictions. Donc bienvenue à toutes nos auditrices et nos auditeurs, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Colline, de Lampa. Bonsoir Colline, et merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Consommer alcool, tabac, cannabis, ecstasy, même si c'est de manière occasionnelle, ça peut comporter des risques pour la santé, aussi bien physique que mentale. Et les dépendances aux jeux vidéo, au téléphone portable ou également à la pornographie existent elles aussi et peuvent avoir un impact négatif également sur le quotidien. Et pour se libérer des addictions, il existe des solutions d'accompagnement, de prise en charge. Et c'est ce que vous proposez à l'AMPA, n'est-ce pas, Colline ?
Oui, alors l'AMPA, c'est une grosse structure nationale. On est présent sur tout le territoire français avec historiquement un gros travail d'accompagnement. Donc, des personnes qui pourraient se poser des questions, qui auraient besoin de travailler un petit peu sur leur consommation et d'être accompagnées là-dessus. Donc on fait de la prise en charge et de l'accompagnement individuel. On porte des centres de soins, par exemple, les XAPA. Et puis, on a aussi une grosse mission qui est la mission de la prévention. Donc, en amont de toutes ces difficultés de consommation, l'idée, c'est d'informer, de travailler un petit peu sur les représentations et de développer l'esprit critique des jeunes et des moins jeunes sur ces questions de consommation. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est d'armer un petit peu plus les personnes pour qu'elles fassent des choix de consommation raisonnés et peut-être raisonnables. C'est un petit peu ça notre mission.
D'accord. Donc, on parle plus à l'AMPA de consommation que d'addiction ou de dépendance ?
Oui, parce que l'addiction, c'est un usage parmi plein d'autres usages de consommation. La majorité des consommateurs vont plutôt bien, ne sont pas en tout cas dans une addiction ou dans une dépendance à leur consommation de drogue ou de comportement. Avant l'addiction, il y a plein d'autres usages et il y a plein d'autres risques. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir prévenir ces risques-là, de discuter sur tous les usages, qu'on soit un consommateur occasionnel, festif ou un consommateur quotidien. Finalement, il y a un intérêt à aller aussi questionner tous ces usages pour éviter peut-être à terme d'aller justement sur une dépendance et une addiction.
D'accord, on est plutôt sur de la prévention dans un premier temps et puis le soin avec le XAPA dans un deuxième temps.
Exactement. Il y a vraiment ce continuum, en tout cas à l'AMPA, de prévention et de soins. Moi, ma mission, elle est exclusivement la prévention en Mayenne. L'AMPA ne fait que de la prévention en collectif. Donc, j'ai davantage cette casquette-là. Pour nous, notre objectif, c'est vraiment de rencontrer un maximum de personnes pour travailler un petit peu sur les idées reçues et informer objectivement les consommateurs sur les drogues et les comportements addictifs.
Oui, vas-y Laurence.
Votre public concerne beaucoup les jeunes. Quel type de public et de quelle manière vous intervenez ?
Alors, on est financé par l'Agence régionale de santé, donc qui définit avec nous des publics prioritaires. Alors, forcément, les jeunes sont un public ciblé par l'ARS, puisqu'on sait que plus on va consommer jeune, plus potentiellement on va prendre de risques par rapport à ces consommations-là, et plus à terme on peut être aussi en danger par rapport à une éventuelle dépendance. Donc cibler les jeunes, ça a vraiment du sens sur ces questions de consommation. Donc ça fait partie vraiment de manière quotidienne de travailler avec les jeunes, donc dans des établissements scolaires, mais aussi dans d'autres structures. Notre manière de travailler avec les jeunes et aussi les publics qu'on rencontre, c'est aussi de travailler avec les professionnels qui les accompagnent. Donc, notre mission, elle est aussi de soutenir la communauté éducative, de les aider à se positionner par rapport à des comportements à risque, chez les jeunes pour pouvoir mieux accompagner ces jeunes-là. Et puis, bien évidemment, il y a aussi du temps en présentiel, en animation avec les jeunes et les professionnels qui peuvent les accompagner au quotidien pour travailler un petit peu sur ces questions de drogue. Auprès des jeunes, on travaille beaucoup sur le développement des ressources personnelles, faire des choix, être en capacité de pouvoir dire non. Ce sont des choses qui sont importantes quand on parle de consommation. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de faire du lien avec ce qui peut se passer dans la vie d'un jeune, dans le quotidien d'un jeune, et d'essayer de les armer et de développer leur esprit critique sur ce qu'ils peuvent voir, entendre, notamment sur les réseaux sociaux par exemple, de décortiquer ce qui est une vraie information et ce qui est une fausse information pour qu'ils fassent vraiment des choix en toute connaissance de cause par rapport à leur consommation. Et puis l'idée, c'est aussi de réfléchir avec eux sur l'instantané, sur ce qu'ils peuvent faire eux en soirée. Le volet festif et soirée, il est très présent chez les jeunes. C'est leur pratique de consommation, donc on part de ce qu'ils vivent finalement. Qu'est-ce qui se passe dans une soirée? Quels sont les bons côtés et quels sont aussi les mauvais côtés ou les risques, les dangers potentiels et comment on peut s'en préserver finalement. Donc l'idée, c'est pas de faire un cours ou d'imposer une manière de voir les choses, c'est plutôt de créer du débat autour de ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. C'est très complexe comme thématique, les pratiques addictives.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une addiction?
Alors, l'addiction, c'est quand on est dépendant de notre consommation, on a perdu la liberté de se passer du produit ou du comportement, par exemple un jeu vidéo. Et malgré les conséquences négatives de cette consommation-là, la personne va poursuivre parce que c'est plus fort que tout, c'est plus fort qu'elle. Même si elle a conscience des conséquences négatives, elle va continuer son comportement de consommation qui pose problème. Donc là, c'est vraiment l'addiction. Bien avant ça, c'est ce que je disais, il y a d'autres usages. On peut être un consommateur très occasionnel d'alcool, par exemple, mais quand on est en soirée, on peut se mettre en danger. Donc l'idée, c'est aussi de prévenir les risques routiers, par exemple, les alcoolisations trop importantes, où ça pourrait arriver à un blackout, à un coma éthylique. Donc l'idée, c'est de travailler vraiment notamment avec les jeunes sur ça, sur ce qui se passe en soirée, sur les risques potentiels et comment on peut prévenir ces risques-là.
D'accord. Et avant de parler d'alcool, on va en venir d'abord à l'actualité qui promeut l'arrêt de la cigarette. Alors, on va parler du tabagisme. On parle beaucoup, hein, comme tu disais, des dangers. Mais voilà, c'est le premier responsable de cancer, la première cause de décès évitable en France. Voilà, il y a beaucoup de discours négatifs autour de la cigarette. Quand on est un jeune, à quelle période on commence à fumer en général et voilà, qu'est-ce qui fait qu'on teste malgré ces discours négatifs-là et malgré le danger du tabac qu'on connaît tous?
Oui, alors c'est vrai que sur le tabac, c'est très intéressant de travailler avec les jeunes là-dessus parce que, comme tu le dis, on sait tous que ça va tuer un fumeur sur deux. On sait tous que ça coûte cher, que ça rend dépendant très vite. On a beaucoup connaissance des risques et en même temps, on continue malgré tout à consommer et quand on est jeune, on peut être quelque part un petit peu attiré par cette consommation-là. Alors de moins en moins quand même, les statistiques montrent que les jeunes sont de moins en moins attirés par le tabac, donc tant mieux. Peut-être que la campagne Moi sans tabac a aussi aidé cela. En général, les jeunes commencent à fumer au collège. On voit bien qu'entre le moment où ils arrivent en sixième et l'année où ils arrivent en troisième, il y a eu expérimentation du tabac dans ces années-là, bien souvent. Ce qui est compliqué avec le tabac, c'est qu'en quelques bouffées, en quelques cigarettes, on peut devenir dépendant et accro à la cigarette. Donc, c'est souvent le discours qu'on peut dire aux jeunes, mais le mieux, c'est de vraiment pas y aller, de pas rentrer dans le tabac, parce que derrière, la perte de liberté, elle arrive très vite, en fait. Contrairement à d'autres produits qui peuvent rendre accro beaucoup moins rapidement, le tabac, c'est très, très addictogène. Donc, les jeunes peuvent aussi rapidement se trouver un petit peu dépendants de cette consommation et ne plus avoir la liberté de se passer de ce produit-là, quoi.
C'est très très rapide.
C'est très rapide, oui. On dit que le tabac est plus addictogène que l'héroïne. Donc, effectivement, c'est un produit qui arrive très vite dans le cerveau. Donc, le cerveau, ce qui arrive très vite, ça lui fait du bien. Donc, il en redemande aussi. C'est quelques secondes, le fait que la fumée de cigarette arrive dans le cerveau et soulage, fait les effets de pourquoi, voilà, pourquoi on fume. Donc, effectivement, ça rend accro le cerveau, notamment d'un jeune qui est assez fragile là-dessus, très, très vite. Donc, il ne s'agit pas de fumer 2 paquets par jour pendant 3 ans pour devenir dépendant. En quelques bouffées, selon les personnes, on peut devenir dépendant au tabac. Donc, peut-être que pour les jeunes, le mieux, c'est de ne pas tester, parce que effectivement, après, on perd vite la liberté de se passer de ce produit. Tu disais aussi pourquoi, peut-être les jeunes commencent à fumer alors qu'ils savent, ils ont bien conscience des risques. Il se joue beaucoup de l'ordre du collectif, peut-être de la socialisation. Ça passe, c'est un petit peu comme un rite de passage, si tu veux, quelque chose d'initiatique. Des fois, c'est l'idée de faire quelque chose qui est interdit, parce qu'ils sont pas censés acheter des clopes avant 18 ans en France, les mineurs. D'embêter les parents, des fois. On a pu me faire cette remarque une fois. C'était pour embêter les parents ou de montrer en tout cas qu'on grandit. Et puis bien souvent, c'est le cercle amical, voilà, ou au collège, entre amis, où on va tester une cigarette. Souvent, la première, elle est pas bonne, elle fait tousser, mais il y a quelque chose qui fait qu'on va quand même voilà, un petit peu y retourner. Se donner une contenance aussi, ça fait classe. Il y a toujours des fois un peu cette image-là de j'ai quelque chose dans la main, je peux aller demander du feu à quelqu'un. Donc c'est vraiment de l'ordre du contexte et du collectif, je pense, du groupe qui se joue voilà, cet intérêt à toujours aller sur un produit et qu'ils savent tout à fait dangereux et qui coûte très cher, etc., quoi. On a bien conscience des risques.
Un quart des jeunes de 17 ans fument tous les jours, donc c'est beaucoup, ça représente un budget énorme.
Ouais.
Est-ce que tu penses que le prix du tabac qui ne cesse d'augmenter ces dernières années, c'est une des raisons qui font que les chiffres baissent un peu?
Je pense que pour avoir une politique de prévention autour du tabac cohérente, il faut plein d'actions, et notamment l'augmentation du prix du paquet, ça a montré son intérêt, hein, notamment pour les jeunes. Après, c'est aussi compliqué parce qu'à partir du moment où les gens sont dépendants de leur consommation, bah, malgré les 10 euros du paquet de cigarettes, ils vont quand même aller acheter voilà, leur consommation. Donc, faut aussi des dispositifs qui permettent aux gens de vouloir changer leur consommation et d'être accompagnés aussi pour changer leur consommation. Il ne faudrait pas s'arrêter qu'à l'aspect un peu porte-monnaie, quoi. Toucher au porte-monnaie des consommateurs, c'est une chose et c'est efficace, notamment chez les jeunes, mais ce n'est pas suffisant puisque le produit rend accro. Très vite, tu parlais d'une statistique, Laurence, un quart des jeunes fument quotidiennement. C'est d'ailleurs exactement quasiment la même statistique de jeunes qui ont testé le tabac. Donc, c'est aussi révélateur du fait qu'à partir du moment où en général on teste, ben, on devient dépendant et consommateur quotidien de tabac, quoi.
Et dans les
C'est ça
jeunes que vous
qu'on
rencontrez,
réfléchit.
par rapport à l'e-cigarette, à la vapote, beaucoup ont déjà testé, a priori également.
Eh bien, moi, j'ai moins cette image-là. La vapote est assez utilisée chez les adultes, chez les gens qui consomment depuis longtemps. La vapote peut être un bon moyen de réduire et à terme d'arrêter la cigarette. C'est un outil de réduction des risques, comme on peut l'appeler. Donc, effectivement, ça peut être un bon moyen. Moi, personnellement, j'ai peu rencontré de jeunes qui se mettaient d'emblée à la vapote comme ça. Enfin, en tout cas, il y a eu un petit passage effet de mode peut-être pendant un certain temps là-dessus. On en parle peu de la vapote finalement chez les plus jeunes, j'ai l'impression. En tout cas, moi, de ma pratique professionnelle.
Moi, j'ai déjà entendu cette phrase. Tu vas nous dire si c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Les roulés seraient meilleurs que les blondes pour la santé, moins chimiques. Qu'est-ce que tu en dis de ça?
Eh ben, j'en dis le contraire. Il y a des formes d'équivalence en termes de toxicité en fait qui existent. Alors bon, c'est pour schématiser un petit peu, mais on part du principe qu'une cigarette blonde industrielle, finalement, elle serait un petit peu moins toxique. Une roulée, ce serait l'équivalent de deux blondes. pour vous donner un ordre d'idée. Et un joint de cannabis, ce serait l'équivalent de 7 cigarettes blondes. Donc, effectivement, des fois, on parle aussi de cette idée que le cannabis serait moins dangereux. C'est absolument faux. En fait, ce qui est toxique dans le tabac, c'est la fumée. C'est le fait de brûler, c'est cette combustion qui est toxique et qui crée le monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique pour le corps, qui crée les goudrons, voilà, les centaines et les centaines de substances toxiques dans la cigarette sont liées en fait à la fumée. Donc la roulée, en fait, elle dégage plus de fumée, donc elle est plus toxique, comme le joint de cannabis. Donc c'est le contraire.
Pareil pour, on a tous ce pote qui, pareil, a arrêté la cigarette, mais qui fume un joint de temps en temps. Donc, pareil, en termes de toxicité, c'est pas meilleur.
Non, alors c'est ça qui est un petit peu délicat avec le tabac et le cannabis, notamment quand c'est fumé. Il n'y a pas vraiment de réduction des risques pour la santé quand on réduit la consommation de clopes, par exemple. Passer d'un paquet à 5 cigarettes pour la santé, ça n'a pas de réel impact, même si ça peut être une démarche vers l'arrêt total. Financièrement aussi, ça a un impact là-dessus. Je vais pas. Mais effectivement, en termes de santé, voilà, les professionnels de santé sont plutôt dans l'idée de réduire pour à terme arrêter, parce que pour la santé, c'est ça qui est bon. À partir du moment où on continue à inhaler des fumées, c'est pas bon pour l'organisme. D'ailleurs, certains fumeurs réduisent leur nombre de cigarettes, mais finalement changent un petit peu leur manière de les fumer et tirent beaucoup plus dessus. Donc, ce qui fait qu'ils vont aussi avaler davantage de substances toxiques. Donc, le nombre de cigarettes, c'est pas suffisant pour évaluer aussi la consommation d'un fumeur. Et ça, les professionnels de santé, quand ils les accompagnent dans l'arrêt ou la réduction du tabac, travaillent avec eux là-dessus, sur le nombre de cigarettes, mais aussi sur la manière dont ils peuvent tirer dessus, quelles seraient les cigarettes les plus faciles à enlever dans un premier temps, pour à terme arriver à un arrêt total, en fait, de la cigarette.
Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Chickens need feeding, dog needs a bone. Bills need paying and the bank's on the phone. Dishes need washing, kids do too. Man come home and he wants to woo-hoo. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Screaming from the kettle, knocking at the door. Baby kicked the bucket full of suds on the floor. Rain starts falling, clothes on the line. What's a stay-at-home mama do with all that time? Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Working through the day, working through the night. Planes and trains and another missed flight. Mama gotta hustle, do another show, cause they won't play a radio on country radio. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling on. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Queenie, Queenie, don't drop the ball. Down come baby cradling.
Et alors, du coup, là, on parle d'arrêter la cigarette. Donc, on parlait des campagnes qui ont permis quand même qui ont un effet. En France, actuellement, la tendance de la consommation de tabac, elle est donc à la baisse.
Exactement, oui. Ça diminue, notamment au Pays de la Loire. On a enregistré ces dernières années une réduction assez importante. Donc ça, c'est plutôt chouette.
C'est vrai que je pense, quand on est jeune, on a très tôt en fait été bercé, rien qu'à l'école primaire, dans cette dans cette communication anti-tabac. Donc peut-être que c'est ça aussi, moins de nouveaux fumeurs, peut-être chaque année.
Oui, peut-être. Les dernières études chez les jeunes montrent qu'effectivement, le tabac, il est moins vu comme un produit fun. Qui attire en fait. Parce que tu le disais, on a augmenté aussi les prix des paquets. Il y a des années de ça, on pouvait les acheter par paquet de 4 ou à l'unité, ça coûtait rien du tout des cigarettes. Donc c'était très facile pour les jeunes d'aller les récupérer et de fumer. Là maintenant, c'est quand même un coût. Il y a aussi les paquets neutres qui sont arrivés il y a quelques années maintenant. Donc c'est vrai que les paquets sont pas jolis. Sont pas très neutres d'ailleurs, hein, sont assez trash dans voilà, les photos qui peuvent être inscrites. Donc ça enlève l'image un petit peu attirante et sympathique du tabac. On le disait, la majorité des gens ont bien conscience des risques et les connaissent. Ils se jouent quand même quelque chose dans le contexte collectif, festif, qui fait qu'à un moment donné, ils vont quand même être attirés par ça. Par contre, les études montrent que le produit qui devient peut-être un petit peu plus attirant pour les jeunes, c'est le cannabis. Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte.
Donc, les études montrent que le packaging a eu un impact sur la réduction de consommation.
Chez les jeunes, l'idée, c'était vraiment de viser les jeunes avec le paquet neutre. C'était de lui enlever cette idée attirante. Alors moi, j'ai des anciens paquets au bureau roses, avec des belles cigarettes, avec des petits arabesques destinés pour les filles. Enfin, il y avait un gros travail de com sur le packaging. Donc le paquet neutre a enlevé ça, au moins, a vraiment essayé de casser cette image. Séductrice finalement qu'on peut avoir avec le tabac. Moi, quand j'étais jeune, je collectionnais les paquets de clopes parce qu'il y avait différentes couleurs. On faisait des petits pliages avec des t-shirts de maillot de foot et on se faisait des équipes. Donc, il fallait différentes couleurs de paquets de cigarettes. Donc, on avait des cigarettes en chocolat à mon époque. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, c'est plein de finalement de dispositifs qui ont permis, je pense, au fur et à mesure des années, d'enlever cette image sympathique du tabac, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, voilà, l'industrie du tabac a beaucoup travaillé sur le marketing et notamment à viser les jeunes, parce que ils savaient très bien que viser les jeunes, c'était aussi avoir
une future clientèle.
Exactement. C'est comme quand on vise les jeunes sur Coca-Cola ou sur d'autres marques. L'intérêt pour eux, c'était d'avoir des jeunes clients. En plus, les fumeurs sont assez fidèles à leur marque. Donc, quand on commence par une marque, en général, au bout de 25 ou 30 ans de fume, on est toujours sur la même marque. Donc, pour eux, c'était pertinent. Ils l'avaient très bien compris. Et on a retrouvé des rapports qui ont été ressortis, qui montrent ça, qu'ils ciblaient les jeunes. Voilà, l'intérêt, c'était aussi de travailler là-dessus, notamment sur le paquet neutre, quoi.
Donc là, on parle beaucoup d'arrêt, de sevrage ou de réduction. Les jeunes qui nous écoutent, s'ils ont envie voilà, d'envisager soit une réduction ou tentative, en tous les cas, d'arrêter, à qui ils doivent s'adresser, quel type d'aide ils peuvent bénéficier.
Plein de choses qui existent. Souvent, on entend, c'est qu'une question de volonté. Ça, c'est absolument pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est sûr que si on n'a pas envie, on va pas réussir. Mais ça fait pas tout. On disait que le tabac, c'était très addictogène, que ça rendait vraiment très vite et très fortement dépendant. Il se joue vraiment des choses dans le cerveau aussi du fumeur qui sont compliquées à gérer quand on a envie d'arrêter. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'essayer d'avoir plein de stratégies et de multiplier en fait les stratégies. Ça se prépare aussi, la réduction ou l'arrêt du tabac. On a toujours l'exemple de quelqu'un autour de nous qui a arrêté du jour au lendemain et pour qui ça a marché. Ça, ce serait top si ça marchait pour tout le monde, mais c'est pas le cas. C'est un peu injuste là-dessus. Donc, je pense qu'il faut aussi pouvoir s'y préparer, mettre un petit peu toutes les armes de son côté pour que ce soit le plus facile possible, parce qu'on sait que ça ne va pas être simple. Donc, il y a plein de choses qui existent, notamment en Mayenne, pour être soutenu. Il y a des dispositifs aussi sur Internet, il y a des réseaux sociaux qui peuvent soutenir des groupes d'aide à l'arrêt du tabac, par exemple, sur Facebook ou Twitter. Il y a l'application Tabac Info Service qui est un bon outil. Alors là, dans le cadre de la campagne Moi sans tabac du mois de novembre, le site a fait peau neuve et l'application, elle est assez intéressante. On peut mettre quand est-ce qu'on souhaite arrêter. Et tous les jours, on a des notifications avec des conseils, des petits outils, des tests, des questionnaires pour mieux se connaître en tant que fumeur. Et donc, du coup, pour que ce soit plus facile de pouvoir arrêter, pour adopter les bonnes stratégies qui vont convenir à chacun finalement.
Et pour donner du courage aux fumeurs et aux fumeuses qui souhaitent arrêter de fumer, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut citer des bienfaits de l'arrêt du tabac sur la santé
Oui, alors il y en a plein. Et d'ailleurs, les fumeurs qui testent l'arrêt s'en rendent compte assez vite. Donc ça, c'est souvent une crainte des gens qui ont un petit peu peur d'arrêter. C'est l'idée que ça va être très long et ne pas voir les effets bénéfiques ou alors les voir que dans 3 à 4 mois. Déjà, pour le corps, au bout d'une journée, il n'y a plus de nicotine. On réoxygène son corps très vite, en quelques heures. Donc déjà, ça fait du bien. Même si on arrête de fumer que 4 jours, bah, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. C'est déjà bien pour le corps. Y a des personnes, en quelques jours, elles retrouvent aussi le goût et l'odorat. Les fumeurs ressalent en général beaucoup leurs plats, perdent un petit peu le goût et l'odorat, parce que la fumée de cigarette est très chaude, donc elle brûle en fait les cils là, qu'on a dans la gorge, responsables du goût de l'odorat. Ça revient très très vite. Le fait d'être essoufflé et du coup de regagner un petit peu en souffle, c'est des choses qui sont souvent perçues assez rapidement et de manière très positive. Ça encourage aussi pour continuer l'arrêt du tabac. Bah, le porte-monnaie, ça c'est un avantage pas négligeable. Nous, souvent, ce qu'on conseille aux personnes qui essayent de réduire ou d'arrêter, c'est vraiment de garder en fait cette petite cagnotte économisée pour se faire plaisir. Parce que bien souvent, le tabac, ça reste un plaisir pour les fumeurs. Donc, c'est compliqué de se passer d'un moment de plaisir ou de détente. Donc, l'idée, c'est de garder cet argent-là pour s'autoriser à s'offrir quelque chose qui nous ferait du bien. En ce moment, on ne peut pas vraiment sortir au cinéma ou faire beaucoup, beaucoup de sorties, mais autorisez-vous aussi à vous faire plaisir. C'est souvent le conseil qu'on peut donner et ne pas attendre un an pour se payer un voyage parce que des fois, bah, c'est trop long et on perd la motivation. S'offrir quelque chose toutes les semaines, par exemple, ça peut être un bon moyen pour entretenir la motivation à l'arrêt du tabac.
Je prends note de tout ça. Et alors, par contre, si on rechute, comment on fait ?
Alors, c'est pas grave. Je pense que l'intérêt, c'est effectivement de... si on n'est pas satisfait de sa consommation de tabac ou si on se dit qu'il y aurait un intérêt à changer, à réduire, voire à arrêter, il faut s'autoriser à y réfléchir et à essayer de changer les choses. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça permettra de mieux se connaître et de pouvoir aussi estimer qu'est-ce qui a été vraiment très dur. Les fumeurs nous le disent, par exemple, la cigarette avec le café le midi, elle est très très difficile à arrêter, en tout cas pas dans les premières semaines. Bah, c'est en testant les choses qu'on va se rendre compte de finalement qu'est-ce qui est dur et qu'est-ce qui l'est moins. Donc en essayant de se fixer des petits objectifs, des fois c'est juste de pouvoir repousser la cigarette du matin par exemple. Pour le corps, c'est une très bonne chose de repousser un maximum la cigarette du matin. Ça peut être un petit objectif et voilà, qui va évoluer au fur et à mesure. Et puis si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, c'est peut-être pas le bon moment. Des fois, on se dit que c'est le bon moment et puis finalement, en testant, bah, on se rend compte que c'est pas si simple. Tant pis, on le fera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an. Je pense que toutes les tentatives d'arrêt sont quand même à valoriser parce que le fumeur devient de plus en plus connaisseur de quel fumeur il est et de qu'est-ce qui est difficile. Donc, le jour où il voudra arrêter de nouveau, il sera bien plus compétent et il aura cette forme de recul, finalement, de son premier arrêt pour réussir un petit peu les choses, quoi. Donc, il n'y a pas de problème si on rechute. En soi, ce n'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ça, comment on va analyser le fait que ça n'a pas été possible, ça n'a pas été facile à ce moment-là. Et puis, ben, on réessaie dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Ça va dépendre du contexte et de chacun. Mais je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression. OK, c'est un produit qui est toxique et qui est dangereux, mais c'est un produit pour lequel les fumeurs ont sont très attachés et c'est compliqué. Alors, chez les jeunes, un petit peu moins. Donc, l'idée, c'est vraiment peut-être d'essayer d'arrêter le plus tôt possible. Mais quand on est fumeur depuis 25 ou 30 ans, il faut réapprendre plein de choses. Il faut changer ses habitudes. Il y a des gens qui ont toujours évolué et grandi en tant qu'adulte avec la cigarette. Donc, si ça ne marche pas le 1er novembre, bah, on n'est pas à 3 mois près. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Soit, l'intérêt, c'est aussi de mettre toutes les chances de son côté. Et puis, à terme, ça fonctionnera mieux.
Il y a beaucoup de rituels et de gestuels, donc effectivement, il faut pouvoir compenser et inventer d'autres.
En fait, il y a 3 types de dépendance dans la dépendance au tabac. Il y a la dépendance physique, qui est, elle, liée à la nicotine. La nicotine, c'est ce qui rend dépendant dans le tabac. Alors, elle n'est pas dangereuse en soi, la nicotine. Elle rend juste dépendant. C'est pour ça que, notamment, on encourage les femmes enceintes à avoir des substituts nicotiniques parce qu'il n'y a rien de dangereux. Donc, ça rend accro physiquement, la nicotine. Il y a la dépendance psychologique. Comme tu dis, il y a le fait de pouvoir réduire son anxiété, d'avoir le sentiment de mieux gérer ses émotions ou son stress avec la cigarette. D'ailleurs, cet aspect-là, c'est assez contradictoire, mais les fumeurs ont l'impression de gérer leur stress un petit peu mieux avec la cigarette, alors que finalement, les études ont montré que les fumeurs étaient bien plus stressés et anxieux que les non-fumeurs. Donc, ce n'est pas une stratégie qui est payante à terme, finalement. Et puis, il y a une dernière dépendance qui est la dépendance comportementale, l'environnement, le contexte. On sait créer des habitudes en tant que fumeur, parfois pendant des années, et bah, ce n'est pas facile de changer les habitudes. Donc, pour vraiment mettre toutes les chances de son côté, il faut essayer de bien se connaître sur ces 3 types de dépendance et de travailler sur plein de stratégies en même temps, finalement. Les substituts nicotiniques sont un très bon moyen d'éviter le manque de nicotine. Donc, il faut vraiment s'autoriser à avoir des substituts. Maintenant, en plus, il y a l'avance de frais qui est fait. On n'a plus besoin de payer à la pharmacie ces substituts-là. Donc, faut vraiment voilà, que les personnes s'autorisent à aller demander conseil à leur pharmacien, demander une ordonnance à leur médecin ou les infirmiers qu'ils peuvent rencontrer. Parce que vraiment, ça aide. Mais en même temps, il n'y a rien de miraculeux. Donc, il faudra peut-être travailler aussi sur un changement d'habitude, sur un petit peu plus d'activité physique. On parlait tout à l'heure de plaisir. Bon, bah, si la cigarette, c'est une forme de plaisir pour le fumeur, il va falloir qu'il retrouve d'autres formes de plaisir que celle de la cigarette. Donc, c'est pour ça que ça s'anticipe et que bah, ça se travaille. L'arrêt du tabac, ce n'est pas si simple. Effectivement, les fumeurs le disent, c'est une dépendance qui est difficile aussi à s'enlever, à disparaître. Donc, voilà, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, je pense, et tester un petit peu toutes les stratégies. Pour que ce soit le plus facile possible.
Et alors, un mois sans tabac, quel intérêt de faire le mois sans tabac, en novembre?
Alors, l'intérêt, pour moi en tout cas, professionnel de la prévention, l'intérêt c'est de parler du tabac, ça c'est clair. Cette campagne, elle fait du bien. Cette campagne, elle est positive aussi dans le discours qu'on peut amener. Par rapport aux fumeurs, vous le disiez tout à l'heure, mais on a des discours très négatifs en général auprès des fumeurs. C'est pas bien, faut pas faire comme ça,
Très
etc.
culpabilisant.
C'est ça. Le mois sans tabac, il est plutôt axé sur la valorisation et le soutien des fumeurs dans le défi d'arrêter. C'est une campagne qui se veut collective. On se soutient les uns avec les autres. On soutient entre collègues, entre amis, pour essayer de réaliser un défi. Alors pourquoi un mois? Parce que les études ont montré que quand on avait arrêté le tabac pendant 30 jours, eh bien on avait 5 fois plus de chances d'être ex-fumeur pour tout le temps. On avait fait un petit peu le plus dur, si vous voulez, et on mettait encore plus de chances de notre côté d'arrêter de fumer définitivement.
Donc, il faut pas baisser les bras, même si bah voilà, on considère qu'on va pas y arriver seul parce que c'est compliqué. Faut pas hésiter à se faire aider si on a envie d'arrêter. Voilà, il y a six fumeurs ou fumeuses sur 10 qui souhaitent arrêter. saisissez l'occasion. Et voilà, on peut venir à l'ANPA ou au XAPA pour rencontrer un professionnel et pour identifier la meilleure stratégie pour arrêter de fumer.
Oui, alors nous, on ne peut pas faire d'accompagnement individuel, mais par contre, on intervient dans des structures où on va pouvoir créer des groupes de réflexion et d'aide à l'arrêt du tabac. Mais effectivement, il y a plein d'outils qui existent. Alors, en fonction de chacun, on va sûrement pouvoir trouver les outils qui nous vont bien. Il y a plein de choses sur Internet. Il y a une ligne téléphonique aussi, le 3989, où on peut avoir accès à des tabacologues, par exemple, avoir un suivi. Alors, ça, c'est totalement gratuit. Et puis, on peut se déplacer aussi physiquement dans des structures qui vont pouvoir accompagner. Donc, tu parlais du XAPA. En Mayenne, il y a un XAPA sur Mayenne, Laval, Château-Gontier. Je pense aussi à l'UCIRSA, qui est le centre d'examen de la sécurité sociale. À l'occasion des bilans de santé qu'ils mettent en œuvre via la Sécu, il y a des infirmières qui sont formées à la tabacologie et une diététicienne qui est formée aussi à la tabaco, et qui vont pouvoir rencontrer les gens sur ces questions de consommation de tabac. Donc ça peut vraiment être un moyen d'enclencher une réflexion. Je parlais aussi des réseaux sociaux. Il y a des groupes vraiment des groupes de soutien qui existent. Donc c'est assez facile de s'y intégrer. Et on partage en fait un petit peu les expériences, les bons côtés, les difficultés. Les fumeurs ont des questions hyper pertinentes sur le changement que ça peut engendrer, le fait de réduire ou d'arrêter le tabac. Donc, quand on sait ce qui va nous arriver, bah, c'est bien plus facile aussi d'y être préparé et du coup de passer l'arrêt du tabac plus facilement, quoi.
Dans les lieux ressources, au niveau local, il y a aussi une consultation d'addictologie qui est proposée à l'hôpital de Laval.
Oui.
Donc, je voulais le rappeler, hein, c'est une addictologie, mais pas que tabac, hein, ça peut être alcool, drogue, jeu, en externe ou alors pendant des hospitalisations avec des prises en charge médicales et psychologiques qui sont assurées par une équipe pluridisciplinaire. Il suffit de prendre rendez-vous et bon, la plupart des contacts et adresses utiles peuvent être retrouvés dans les structures information jeunesse du département, mais c'est important, c'est une prise en charge qui est également gratuite.
Exactement. C'est la plupart du temps confidentiel, c'est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, depuis quelques temps, maintenant, les majorité des professionnels de santé peuvent prescrire les substituts nicotiniques. Je pense aux infirmiers, aux kinés, aux sages-femmes, par exemple, aussi. Donc, c'est des professionnels nouveaux dans la prescription. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant ou à ces professionnels qu'on peut rencontrer. Parce que vraiment, je pense qu'il faut vraiment utiliser aussi cet outil-là de substitution pour que ce soit plus confortable aussi dans l'arrêt. Comme c'est compliqué, bah, l'intérêt, c'est d'être soutenu aussi. C'est peut-être aussi de s'assurer que son entourage va pouvoir nous soutenir quand on va décider d'arrêter. C'est d'essayer de baliser un petit peu le terrain pour que ce soit le moins dur possible, je peux le dire comme ça.
Il y a des alternatives assez récentes qui ont émergé, comme l'hypnose. Peut-être qu'il y a d'autres techniques qui peuvent aider à l'arrêt du tabac.
Oui, ça va dépendre de chacun. Alors, ce qui est intéressant dans la sophro ou dans l'hypnose, c'est aussi le fait de travailler un petit peu sur sa respiration, sur des moments de détente, retrouver une forme d'apaisement. Donc, ça peut être des bonnes alternatives, des bonnes stratégies aussi pour les personnes. Arrêter le tabac, c'est l'occasion aussi de réfléchir sur ce qu'on va manger, sur notre manière de faire un petit peu d'activité physique. Alors, sans s'obliger à reprendre un sport ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que marcher, prendre l'air, monter les escaliers. Ça peut être le bon moment aussi pour réfléchir à ses habitudes et les modifier un petit peu, pour que l'arrêt du tabac soit un petit peu plus simple, parce que forcément, ça va questionner les habitudes du fumeur.
Le CIDJ parle d'un jeu qui s'appelle Smoke Eaten. C'est un jeu vidéo sur smartphone ou tablette qui est destiné à ceux qui souhaitent arrêter de fumer ou ne pas commencer d'ailleurs. Donc, on rentre ces données de consommation de tabac et après, on accède à des jeux. La durée d'abstinence du joueur détermine le blocage des jeux. Donc, Au bout de 222 jours sans fumer, le secret ultime du jeu doit lui être dévoilé. Donc, peut-être que ça peut être un support ludique.
Super.
Il y a aussi des best-sellers des livres qui peuvent aider à arrêter de fumer.
Oui, alors il en existe plein. Après, il n'y a rien de miraculeux. Je pense qu'il faut essayer de trouver toutes les stratégies qui vont convenir à chacun. Mais le mieux, je pense, c'est de s'informer sur le tabac, sur ce que ça fait, sur ce que ça ne fait pas quand on arrête. La crainte de prendre du poids, elle est très présente, par exemple. Donc, de se rassurer et de s'informer là-dessus, ça va permettre vraiment de baliser les choses et de savoir à quoi on s'attend. Et forcément, quand on sait les choses, bah, c'est beaucoup moins difficile. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Je pense qu'il faut trouver tous les moyens possibles. Et puis, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave. On teste autre chose. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Il faut aussi se laisser du temps. Alors, on n'est pas toujours dans une société qui nous laisse du temps, mais arrêter le tabac, ça ne va pas se faire en une semaine. Le corps, le cerveau, il a besoin de se réhabituer à fonctionner sans la nicotine, et ça va mettre du temps aussi, plusieurs semaines. Donc, il y a des moments, ça va peut-être être plus dur que d'autres, mais il faut garder en tête les avantages. Je pense que c'est pas mal aussi de se faire une liste de qu'est-ce que je gagnerais à arrêter. Et quels sont là les inconvénients pour moi à fumer? Ça permet des fois de renforcer un peu sa motivation et visuellement de pouvoir noter qu'il y a bien plus d'avantages à réduire et à arrêter que de maintenir le comportement. Donc, dans les petites baisses de régime, dans les baisses de motivation, se faire un petit peu des checklists, de prendre du temps aussi pour soi, de s'autoriser à se faire plaisir, d'avoir du temps pour soi, c'est important. Dans l'arrêt du tabac, c'est vraiment l'occasion, je pense, de réfléchir un petit peu plus à soi et de se donner du temps. Si les substituts ne marchent pas en une semaine, bah, c'est logique, il va falloir plusieurs semaines. Les professionnels de santé prescrivent en général sur un minimum de 3 mois les substituts. Donc forcément, il faut que le corps et le cerveau se réhabituent à quelque chose de nouveau. Donc prenez le temps et autorisez-vous aussi à tester les choses et puis à recommencer si ce n'est pas voilà, le premier test qui est le bon, quoi.
Merci. On va faire une petite pause musicale dans cette émission et puis on parlera d'alcool à notre retour. À tout à l'heure.
Ball like a star in the hollow rain.
retour sur l'autre radio pour l'instant jeune. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous allons continuer à en apprendre davantage sur les addictions et plus particulièrement maintenant sur l'alcool. Je suis en compagnie de Laurence du CIJ de Laval et de Colline de l'AMPA. Alors tout d'abord, comment on sait si on est dépendant à l'alcool ? Est-ce qu'il y a des indicateurs, Colline ?
Ah, c'est une très bonne question. c'est pas toujours simple d'y répondre. En tout cas, il existe des outils pour s'auto-tester, auto-évaluer un petit peu sa consommation et ses pratiques de consommation pour savoir si on se situe dans une consommation à risque ou pas. Donc, il y a un petit peu des normes. Alors, les auto-questionnaires, on les trouve très facilement sur Internet. C'est un petit peu, vous savez, à la manière des questionnaires qu'on retrouve dans les magazines féminins, c'est un peu ça finalement. On peut répondre à 4, 5, 6 questions et puis ça va nous donner un score qui va dire là vous êtes dans une situation peut-être un peu problématique par rapport à vos usages, il faut peut-être réfléchir à votre consommation, ou au contraire là votre situation, votre consommation se situe dans un usage tout à fait normal, correct, en tout cas sans grand danger. Au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on ait aussi un espace ou un temps pour qu'on puisse discuter ou réfléchir tout simplement sur sa propre consommation. Il y a des gens qui vont consommer que le week-end, par exemple, donc vont se situer en tout cas pour eux dans une consommation pas risquée. Ça ne correspond pas au stéréotype d'une consommation à risque ou d'une dépendance, le fait de consommer que de temps en temps en week-end, en soirée. Mais peut-être que pendant ces soirées-là, il prend déjà beaucoup de risques en fait par rapport à sa consommation. Le fait de consommer de manière importante, beaucoup de verres d'alcool ou en quantité très importante sur un temps très court, ça c'est des signes un petit peu de prise de risque. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter, on prend un verre, puis deux verres, puis trois verres, et puis finalement c'est la bouteille qui y passe. Ça c'est des choses qui peuvent aussi un petit peu interpeller, interroger en se disant je suis vite pris dans le truc et j'ai un petit peu de mal à m'arrêter. Est-ce que j'aurais pas moyen de trouver des stratégies pour réduire quand même un petit peu ma consommation d'alcool ? Nous, c'est ce pourquoi on milite un petit peu à l'AMPA. On aimerait qu'il y ait des espaces et qu'il y ait des temps pour tout le monde, qu'on soit en difficulté ou pas en difficulté avec l'alcool, peu importe, mais qu'on puisse s'autoriser sans tabou à réfléchir aussi à nos consommations. On intervient en milieu festif à l'AMPA depuis des années maintenant. Et c'est aussi ça, c'est pendant le temps festif, le temps de l'alcoolisation, on peut aussi s'autoriser à réfléchir ou à parler un petit peu de ses consommations. Donc il existe des outils pour s'auto-tester en milieu festif, pour éviter de reprendre la route par exemple si on est trop alcoolisé. Et je trouve que de manière générale, les gens sont assez... sont très bienveillants sur ces démarches-là et sont en demande en fait d'avoir des infos et d'avoir des outils pour limiter les risques, notamment sur la route, mais pas que.
Vous intervenez souvent, oui, sur des festivals. Bon, malheureusement, cette année, ce n'était pas le cas. Et comment les jeunes réagissent ? Est-ce qu'ils prennent le temps, même sur ces moments qui sont très festifs, de venir s'informer, vous rencontrer, en parler ?
Oui, alors c'est en général une démarche qui est très bien perçue. Alors nous, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on intervient sur les événements festifs du département. Donc on a créé peut-être aussi au fur et à mesure avec les festivaliers cette habitude-là, mais c'est devenu assez naturel pour un festivalier de prendre des bouchons d'oreilles, de s'auto-tester avant de prendre la route. Ça fait partie finalement maintenant de la manière de faire un festival ou de faire la fête. Et ça, c'est super chouette. En général, on a des conversations qui durent. Je suis parfois même surprise. Les gens restent 1 heure, 2 heures sur l'espace de prévention et ratent des fois certains concerts. Mais parce qu'ils sont pris aussi dans cet intérêt à discuter. Et bien sûr, la posture, elle n'est pas de dire que ce n'est pas bien de consommer, qu'il ne faut pas boire, etc. Ça ne marche pas, cette position-là. C'est plutôt, on est en milieu de soirée, de fête. C'est le moment par excellence où on consomme et on sait bien qu'il y a des intérêts et qu'il y a une envie de consommer sur ces moments-là. Bon, bah, on vous donne les informations pour que vous preniez le moins de risques possible. Et quand on montre aux gens qu'on pense à eux et qu'on est bienveillant envers eux, la démarche, elle passe toujours très bien. Et d'ailleurs, eux, entre eux, essayent aussi d'être assez bienveillants. Parfois, ils essayent de trouver des stratégies pour limiter les risques. Alors, des fois, ça fonctionne. Des fois, pas trop, parce que on manque d'informations objectives sur comment élimine l'alcool, par exemple. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment on élimine l'alcool ou qui ont encore plein d'idées reçues ou de représentations. Je pense à gober un œuf cru, ça va permettre de tapisser l'estomac et du coup, on va moins galérer par rapport à la consommation d'alcool. Tout ça, c'est encore véhiculé en soirée, alors que c'est absolument faux. Il n'y a rien qui permet d'éliminer plus vite l'alcool ou de mieux tenir. Donc, nous, c'est ça notre rôle, c'est de les informer, de leur donner des outils pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe dans leur corps, pour qu'ils soient un petit peu plus en capacité de faire leur choix. Mais malheureusement, à part se faire arrêter par les gendarmes, on n'a pas d'autre moyen que de savoir comment l'alcool fonctionne dans notre propre corps. Donc, nous, on essaye d'être en amont pour voilà, les informer et leur filer les infos là-dessus pour qu'ils soient aussi un petit peu plus responsables de leur conso. Mais je trouve qu'une majorité des festivaliers essayent d'être responsables de leur consommation, en tout cas. Enfin, je trouve que c'est plutôt, ils sont plutôt dans l'idée de ne pas gâcher la fête ou de pas perdre leur permis, etc. C'est pas toujours l'image qu'on veut leur coller, l'image de l'excès, de jamais faire attention. Moi, c'est pas ce que je vois en tout cas en milieu festif.
Et ça traduit peut-être qu'il y a un manque de lieux pour discuter de sa consommation. J'imagine en plus dans un pays comme la France, qui est un des pays les plus consommateurs d'alcool au monde, est-ce que c'est pas difficile du coup de parler de sa consommation dans ce genre de situation?
Oui, je crois qu'il y a vraiment aussi l'image de l'alcool, comme tu dis, en France, qui est très forte, c'est très culturel. Dès la plus tendre enfance, quasiment, voilà, il y a de l'alcool autour de nous. En général, nos premiers verres d'alcool, c'est dans la famille ou quand on est très jeune. On a, pendant des années et des années, valorisé aussi la consommation d'alcool. Donc, c'est assez récent. Les politiques aussi assez répressives, assez dures sur l'alcool. Et puis, il y a plein de discours contradictoires. Les jeunes, par exemple, les mineurs ne sont pas censés acheter de l'alcool, mais ils y ont accès quasiment comme ils veulent, en tout cas très facilement. On ne leur refuse pas l'accès dans un supermarché. Donc ça pose un problème en termes de cohérence, en fait, et de cadre. Et je pense qu'effectivement, ça manque d'endroits, d'espace, de moments, parce que c'est encore assez tabou. Enfin, il y a l'aspect très festif de l'alcool, et puis il y a l'aspect très risqué, très dangereux, la dépendance. Mais entre ces deux espaces-là, il y a plein de choses, et ces choses-là, on n'en discute pas facilement, en fait. Donc nous, voilà. C'est ça notre travail, c'est aussi de donner de l'information objective et de dépasser la simple représentation ou la simple idée reçue sur l'alcool, d'essayer d'avoir une vision un petit peu d'ensemble et globale aussi des choses. On ne peut pas nier qu'il y a du lobby autour de l'alcool, donc forcément ça rend les choses compliquées aussi en prévention, mais pas que.
On entend moins parler de binge drinking depuis quelque temps. Est-ce que c'est une pratique moins courante chez les jeunes ou on en parle tout simplement moins?
En tout cas, on s'est peut-être habitué au terme. Ça fait maintenant assez longtemps que ces pratiques-là existent. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les jeunes ne consomment pas comme les plus vieux. Forcément, ça a évolué. L'idée aussi, c'est peut-être d'aller rechercher une forme d'effet important de défonce. Ce mot défonce, il n'existait pas il y a des années. Alors peut-être que les gens finissaient défoncés, mais ce n'était pas l'objectif, en tout cas à un moment donné de la soirée. Là, il y a ça en général chez les pratiques des jeunes, alors que ce soit pour l'alcool, mais pour d'autres produits, hein, type cannabis par exemple. La recherche d'effets excessifs importants, elle est assez présente chez les jeunes. Je crois qu'il y a un effet pervers à certains cadres. Je pense à l'interdiction de ne pas pouvoir boire Dans les bars, par exemple, ou en discothèque, les jeunes consomment de manière importante avant de rentrer en soirée, parce qu'ils ne peuvent pas consommer en discothèque ou en bar. Et finalement, le côté pervers de cette règle-là, c'est que les jeunes se mettent peut-être un peu plus en danger parce que consomment de manière excessive sur un temps très court avant de pouvoir rentrer en soirée ou en discothèque. Donc, je trouve que c'est pas toujours facile de donner voilà, des conseils très précis, mais en tout cas, oui, il faudrait plus en parler. Ça, c'est clair et net.
Et dans ces périodes de confinement, puisqu'on est confinement 2, est-ce que les pratiques, que ce soit en termes de consommation d'alcool ou autres produits, vous avez fait des constats, vous avez eu des retours de jeunes depuis le premier confinement, vous avez...
Pour certains profils de public, il y a eu une augmentation de la consommation, notamment du tabac. Parce que à la maison, parce que l'ennui, une augmentation aussi de l'utilisation des réseaux sociaux, des jeux vidéo, forcément. C'est encore un petit peu tôt pour avoir un vrai recul. J'ai le sentiment aussi que l'aspect un peu anxiogène de cette période-là, elle se poursuit. On l'a bien vu à partir du mois de mai. On a eu aussi les effets toujours un petit peu difficiles de ce post-confinement voilà, dans les centres de soins que l'AMPA peut gérer. La difficulté de retourner à une vie à peu près normale, enfin, voilà, avec toute l'inquiétude que ça peut générer. Donc forcément, ça a un impact aussi sur les consommations et les consommateurs, notamment ceux qui sont en difficulté avec leur consommation parce qu'ils sont déjà un petit peu fragiles là-dessus. Donc des périodes de stress et d'anxiété comme celle-ci n'aident pas toujours, ça c'est sûr.
Et l'affirmation, je reviens avec mes petites affirmations vraies ou faux. Est-ce que un verre de vin rouge, c'est bon pour la santé?
Absolument pas.
Parce que j'entends ça aussi pas mal.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ce sont les alcooliers, hein, notamment les industriels de l'alcool, qui laissent croire ce genre d'informations. Ils mettent beaucoup d'argent pour faire de la prévention et forcément induire ce genre de message. L'activité physique, c'est très bon pour la santé aussi. Ça débouche bien les artères, comme le whisky pourrait déboucher les artères. Donc, en tout cas, enfin voilà, sous le fond de cette petite blague, mais on sait que à partir du moment où on consomme de l'alcool, même si c'est qu'un verre, on augmente un tout petit peu, certes, mais on augmente les risques de développer des maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que boire un verre de vin, c'est bon pour la santé. Alors après, c'est bon pour autre chose, pour la convivialité, pour le goût, pour tout ce que vous voulez. Mais donner l'aspect santé, le mettre en lien avec l'alcool, c'est absolument faux. Ça n'existe pas du tout. Et ça, voilà, les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué là-dessus. Donc, il faut que les représentations aussi collectives évoluent là-dessus. C'est vrai qu'il y a peut-être 60 ans, on préconisait le litre de vin par jour. Ce n'était pas déconnant. Maintenant, la limite, elle est à pas plus de 2 verres par jour. Et encore, pour certaines personnes, moi, la première, je ne suis pas sûre que si je buvais 2 verres de vin tous les jours, j'irais bien au bout de quelques années. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, non, ce n'est pas bon pour la santé.
Et est-ce que si je bois, je fais une soirée au Ricard, vu que je le coupe à l'eau, mon Ricard, est-ce que j'aurais une moins grosse gueule de bois derrière?
Alors, quelque part... Ça permet de diluer le Ricard, donc ça permet peut-être de mettre moins de quantité d'alcool de Ricard dans ton verre. Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'on l'entend souvent, cette petite remarque. En disant,
j'ai fait des recherches, hein, quand même.
T'as bossé le sujet. Mais il y a cette idée-là de je m'hydrate, hein, comme je bois du Ricard, il y a de l'eau dedans, je m'hydrate. Bon. Oui, certes. Alors, peut-être que la stratégie, c'est de boire un verre d'alcool et puis de boire aussi entre les deux un verre d'eau. Ça, c'est pas mal. La gueule de bois, elle est liée à la déshydratation, en fait. Donc, c'est toujours bien de boire de l'eau, mais idéalement, pas avec le Ricard, peut-être après le Ricard, pour le coup. Mais Mais effectivement, le mal de tête, la gueule de bois, c'est lié à ce manque d'eau dans le corps. L'alcool, ça déshydrate, c'est du sucre, c'est beaucoup de calories. Et c'est pas parce qu'on met de l'eau que voilà, on s'hydrate énormément. Donc, faut vraiment boire beaucoup d'eau aussi en soirée. C'est toujours bien pour sa santé et pour le lendemain de soirée, c'est très bien aussi.
Laurence, est-ce que tu as quelques adresses utiles à nous donner pour conclure cette émission, des associations auprès de qui se tourner quand on sent qu'on a une consommation, un comportement à risque et qui mérite de porter un peu d'attention?
Effectivement, dans tout le réseau Information Jeunesse, hein, les jeunes pourront trouver de nombreuses adresses. Donc, on va en rappeler juste quelques-unes. Le CIDJ a lancé un nouveau portail récemment pour s'informer et prévenir des risques. Ça s'appelle www.santéaddiction.fr, santé sans accent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations pour s'informer, prévenir et trouver des solutions pour s'en sortir. Il y a des BD en vidéo, des quiz, il y a des vidéos la plus marrante, la plus percutante, la plus crash sur tous les sujets qu'on a abordés, hein, que ce soit des évaluations ou des quiz pour évaluer aussi sa consommation de tabac ou d'alcool ou autre. Donc, c'est un site qui est très bien fait. Il y a énormément de choses dessus. Un adresse ou téléphone que les jeunes peuvent joindre à tout moment, il y a Fil Santé Jeunes, qui a un site internet, filsantéjeunes.com, où les jeunes peuvent appeler gratuitement depuis un poste fixe, le 0800 235 236. Je rappelle que c'est un service anonyme, gratuit, accessible à tous les jeunes de 12 à 25 ans et ouvert tous les jours de 9h à 23h. Il y a des chats collectifs ou individuels, des forums de discussion. Donc voilà, c'est une ressource importante. Et au niveau local, je voulais quand même aussi ajouter la Maison des Ados, qui est basée maintenant depuis peu 49 rue Jules Ferry à Laval, qui a aussi des permanences sur Évron, sur Mayenne et Cran, qui accueille les jeunes de 11 à 21 ans, mais aussi les parents, les professionnels. Ils ont un site internet, ils sont également présents, pardon, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a plein de ressources. Après, à chacun de voir ce qui correspond le mieux.
Voilà, toujours ce même message à adapter à chacun. Merci beaucoup, Colline, pour toutes ces informations au sujet du tabac et de l'alcool. C'est très intéressant, on a envie de continuer encore très longtemps. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à vous diriger vers l'ANPA pour en savoir plus. Merci Laurence et merci Anthony à la technique et j'espère que vous avez apprécié nous écouter. Vous pouvez bientôt réécouter le podcast sur le site de l'autre radio. Bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve le 8 décembre pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci Florine, à bientôt.
Merci.